Bonjour à toutes, à tous. Voilà. Alors, on va commencer notre cours et puis poursuivre notre cheminement dans la manifestation de Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on regarde du côté des Écritures, quel est le témoignage de la révélation dans les Écritures. Donc, témoignage de Dieu qui commence dans l'Ancien Testament, où Dieu a parlé. Et Dieu est témoigné aussi en personne dans le Nouveau Testament, où Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Donc on a une manifestation de Dieu par sa parole dans l'Ancien Testament, et une manifestation de Dieu lui-même en sa personne dans le Nouveau Testament. Le Verbe s'est fait chair, nous dit Jean, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Donc regardons d'abord le grand 1, la révélation dans l'Ancien Testament, et comment Dieu se révèle dans l'histoire d'Israël. On a déjà amorcé ça la fois dernière avec, oui. Avec la révélation auprès des prophètes. Mais on va un petit peu se déplacer, un petit peu déplacer l'axe de cette révélation. Donc on peut dire maintenant que la révélation, elle est témoignée par tout un peuple. Pas simplement quelques-uns, mais tout un peuple qui le premier a fait l'expérience de la rencontre de Dieu. Et c'est quand même pas rien de faire l'expérience de la rencontre de Dieu. Un Dieu qui lui parle, un Dieu qui s'adresse à lui. Et un peuple qui devient le peuple élu d'Israël. Donc ça, c'est quelque chose de fondateur pour la révélation et de fondateur pour le peuple lui-même dans son identité. Donc on doit prendre deux dimensions en compte. L'élection, Dieu choisit un peuple, comme il a choisi des prophètes, donc l'élection, et la réception. Parce qu'il ne suffit pas pour Dieu de se révéler, faut-il encore que celui à qui est destinée la révélation l'accueille et la reçoive. Donc on dit que Dieu est l'initiateur de la création et donc de son auto-manifestation. Ça, c'est un terme qu'on retrouve souvent en théologie, qui a été souvent repris par Karl Rahner, qui est un théologien jésuite. Donc l'auto-manifestation, c'est la manifestation de Dieu par lui-même. Et s'il est l'émetteur de la révélation, alors il faut qu'il y ait un destinataire qui reçoive et qui accueille cette manifestation. Donc on pourrait dire quand même qu'il ne s'agit pas d'une manifestation ordinaire, mais de quelque chose d'inattendu. D'abord parce que Dieu se révèle en personne, et ça c'est inattendu, et c'est même inattendu dans l'histoire même de ce peuple. Même si on dit dans le Nouveau Testament qu'ils attendent la venue du Messie. Mais ce qui est important pour nous et l'axe que nous allons suivre, c'est plutôt l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament qui ne va pas relater uniquement du témoignage, du cheminement des hommes qui ont accueilli la révélation, mais qui vont attester que la révélation de Dieu est un fait historiquement identifiable. Donc ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Vous voyez, la fois dernière, on avait parlé des prophètes, on avait parlé d'Abraham, et puis on va parler d'autres prophètes. Quand on dit que la révélation, c'est un fait historiquement identifiable, cela veut dire que ceux à qui Dieu s'est révélé ou à qui Dieu a parlé sont des hommes qui sont connus de leur milieu, et qui sont reconnus. Donc ils font partie d'un groupe, d'une communauté, et donc ils sont insérés aussi dans l'histoire politique, culturelle et cultuelle de leur groupe. Donc on peut les identifier historiquement.
Des notions relativement nouvelles.
Alors,
est-ce que les pères de l'Église déjà avaient cette
idée? Oui, oui, c'est une bonne question. Les pères de l'Église avaient une connaissance des Écritures totale, qui était vraiment une très bonne connaissance des Écritures. Peut-être, je ne suis pas patrologue, mais bon, j'ai un atelier patrologie demain avec des étudiants, et mon collègue est patrologue, je lui poserai la question. Il me semble, mais vraiment, je parle un peu la bouche ouverte, il me semble que leur référence était plutôt celle du Nouveau Testament. Après, celui qui a vraiment, et on est en 1976, donc vous voyez bien, on a tous à peu près le même âge, hein, ici, dans cette pièce. 76, c'est pas vieux, hein.
Non.
Et bien, en 76, Paul Beauchamp. Enfin, pas tous, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Eh bien, Paul Beauchamp, en 1976, a écrit un petit livre qui s'appelle « Parler d'écriture sainte ». Et c'est le premier qui a parlé des écritures Ancien et Nouveau Testament dans ces termes-là. Et on pourrait se dire, mais bon sang, 76, c'est quand même pas si vieux, quoi. Moi, je devais passer mon bac à l'époque, mais... Du coup, on se dit, plus tard, un peu plus tard quand même. Plus tard. Ben, on peut se dire, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas pris conscience, alors que les travaux exégétiques et que la linguistique et la science du langage avaient déjà fait son œuvre après les années 50, 50-60, comment se fait-il qu'on n'en arrive qu'en 76 à réaliser que l'Ancien et le Nouveau Testament, ils sont reliés l'un avec l'autre. Vous voyez ?
S'il vous plaît.
Oui ?
Saint Thomas d'Aquin n'a-t-il pas fait cette liaison, cette relation qui est mise en...
Alors, Saint Thomas d'Aquin prenait l'Écriture sainte dans sa totalité, mais la prise de conscience que l'on ne doit pas déconsidérer l'Ancien Testament, c'est quand même assez récent. Dans les paroisses, parce que là, il ne s'agit pas de dire, oui, bien sûr que l'Écriture sainte, c'était la totalité de l'Écriture. Il a fallu attendre le Concile de Trente, en 1543-1565, pour dire, voilà, le canon des Écritures, il est complet. Il a fallu attendre la réforme protestante, que la rupture avec les protestants fasse que l'Église affirme qu'on ne peut plus enlever et on ne peut plus rajouter aucun livre dans le canon. Ça, le canon est figé. Mais on entendait dans les paroisses et par certains chrétiens dire « Moi, ce qui compte pour ma foi, c'est le Nouveau Testament. » Ou alors, moi j'ai entendu ça dans ma paroisse il y a quelques années. Moi les psaumes, je ne lis pas les psaumes. Une manière de déconsidérer tout ce qui est de l'histoire de l'Ancien Testament.
Oui, c'est quand même pas par hasard qu'on dit qu'on lit une première lecture.
Bien sûr, exactement. Donc, tout à fait. Oui, mais je pense qu'il y a. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi c'est dû, mais qu'il y a. Une manière de considérer que la foi chrétienne, elle débute avec Jésus-Christ. Parce que le christianisme débute avec Jésus, mort et ressuscité. Parce qu'avant, il n'y a pas de christianisme. Et des fois, il faut redire, ça m'est arrivé en formation dans une paroisse, redire aux gens, mais vous savez, Jésus, il est juif. Ses apôtres sont juifs. C'est un juif qui a été crucifié sur la croix. Et de leur rappeler que les chrétiens, ce n'est qu'après. C'est ceux qui ont suivi le Christ qui sont devenus chrétiens. Eh bien, on a tendance à oublier parfois que Jésus est juif. Et vous voyez, quand on oublie... Oui, je vous donne la parole, monsieur. Quand on a tendance à oublier que Jésus est juif, alors je pense que, inconsciemment, eh ben, l'Ancien Testament ne nous concerne pas. Ça concerne l'histoire du peuple juif, donc ça, c'est pas mon histoire. Vous voyez, c'est ça ce qui se joue.
Il n'était pas enseigné. Lorsque nous allions au cathé, ça n'était pas enseigné.
Je suis d'accord. Et ma grand-mère n'avait pas de Bible. Nos grands-mères n'avaient pas de Bible. Et même dans les congrégations religieuses, il n'y avait pas de Bible.
Ben moi, je passais pas mon bac en 76, mais pas loin. Ma grand-mère me lisait la Bible.
Ah oui, bah ça c'est bien, bah alors c'est rare. C'est rare parce que normalement on ne devait pas avoir de Bible chez soi. Si on avait, on avait le Nouveau Testament. On avait le Nouveau Testament, mais.
On n'avait pas du tout l'histoire.
Oui, c'est ça. Monsieur.
Pour répondre à ces objections, l'Ancien Testament, c'est un ensemble de songes, de palissons, etc.
Ah non, c'est pas ça, attention.
Est-ce que vous avez beaucoup parlé de références historiques à l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a des livres et des références bibliographiques que vous pourriez nous donner pour bien comprendre ce qui est vraiment référence historique avec des dates, etc.
Oui.
Ce qui n'est pas...
Voilà, c'est cet atlas-là. Il faudrait vraiment que. Je crois que c'est à l'atlas. Attendez, je vais vous le noter. De mémoire, mais je vous le redirai, mais bon, vous pouvez toujours aller regarder. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? C'est l'atlas, je crois que c'est Atlas. De l'Ancien Testament, mais...
Il n'y a pas que la géographie, est-ce que Moïse a vraiment existé et à quelle date?
Oui, Abraham, oui c'est ça. Dans cet atlas-là, vous avez plusieurs colonnes, comme ça.
Oui.
Et puis après, top, on a plusieurs colonnes. Donc on a une date... Quel est
le personnage et
oui, c'est ça, je ne sais pas quel est le roi,
ouais.
Quel est le prophète. On a même,
l'événement
je crois,
historique.
Même, comment
l'événement historique,
par exemple, la destruction du temple.
Oui.
Destruction du temple. On a plein d'indications, ce qui fait. Et puis de temps en temps, on a une date. Et puis là, on a plusieurs rois, parce que voilà, ça s'est succédé. Et puis on a le nom des prophètes en face, on a, voilà. Et il me semble bien qu'il y a un aussi sur au Nouveau Testament, j'en suis pas certaine.
Oui, c'est juste.
Et c'était vraiment, moi j'ai eu ça tout au début de mes études, et je crois que c'est, il y a deux noms, mais il me semble qu'il y en a un, c'est ça.
Il y en a plein, sur
Internet. Je sais pas, quelque chose comme ça. Regardez, c'est un truc comme ça. R-O, est-ce que c'est...
Il y a Tellier.
Non, c'est pas ça. Je crois que c'est avec un W. L-E-Y, un truc comme ça. C'est un petit fascicule. C'est grand, c'est un format 21-29-7. Mais c'est pas épais du tout. Et il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a vraiment tout. C'est vraiment parfait parce que des fois, on ne comprend pas l'histoire. Enfin, on se dit, bon, alors, quel prophète était là? Et puis, qui était le roi? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et là, on a un document historique, fait par des historiens.
Excusez-moi, pardonnez mon ignorance, mais Deutéronome et tout ça, c'est avant Moïse, c'est après
Alors, le Deutéronome, ça, c'est Moïse. Ça, c'est Moïse.
Et alors, quand vous dites que le Nouveau Testament est une étape d'après... est-ce que dans l'Ancien Testament, comme ça a duré je ne sais pas combien d'années, il y avait des étapes qui étaient franchies quand même, de compréhension des étapes majeures, comme celles qu'a pu être le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament?
Des étapes majeures par rapport
au dévoilement, est-ce qu'il y a eu des marches de franchie ou est-ce que c'était toujours étal à partir de Moïse?
Ben non, en fait, l'histoire de l'Ancien Testament...
Oui.
C'est d'abord l'histoire d'une révélation,
oui.
Puis une histoire d'une libération,
oui.
Et ensuite c'est l'histoire d'une confrontation, dans le sens, c'est-à-dire que à la mort de Salomon, le roi, c'était qu'il n'y avait qu'un royaume.
Oui.
Alors comment
comment vous dire, dites révélation, libération, confrontation.
Confrontation.
Et après le Nouveau Testament.
Confrontation, pourquoi? Parce que quand Moïse meurt, d'abord il confie le peuple à Josué.
Oui.
Josué conduit le peuple sur la terre promise. Le peuple s'installe. On leur dit, vous ne vous mélangerez pas aux autres et vous ne mangerez pas de la nourriture interdite.
Oui.
Et donc, la terre qui est déjà habitée, alors bon, ça nous renvoie à des circonstances tout à fait actuelles et politiques, c'est une terre, le paradoxe, c'est une terre promise et en même temps c'est une terre habitée. Cette terre est habitée par des gens qui sont civilisés par rapport au peuple hébreu. Le peuple hébreu, c'est un peuple qui était nomade, qui a vécu 40 ans dans le désert. C'est un peuple nomade. Il arrive dans un pays, il y a de l'agriculture, il y a des outils, les villes sont organisées, voilà. Et pourtant, ce peuple-là, et c'est peut-être la dimension, le talent de ce peuple-là, parce qu'il faut reconnaître à ce peuple, il s'installe, et ce peuple-là, en s'installant, prolifère, mais pas dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire se multiplie. Donc la promesse de Dieu se met en œuvre, se multiplie. Et donc, le territoire étant tellement grand qu'il faut diviser le territoire en tribus, d'où les 12 tribus d'Israël.
Oui.
Les 12... Mais pour s'installer, il y a quand même eu beaucoup de guerres avec les occupants, comme les Philistins, les Amalécites, etc.
Exactement.
C'est un peu une préfigure de ce qui se passe.
Oui. Alors, je ne saurais pas dire, mais quand je disais le terme de confrontation, c'est ça. En fait, il y a eu des divisions des tribus entre elles. Voilà, la tribu de Benjamin voulait acquérir la tribu d'un autre. Donc, ça veut dire que Dieu, le Seigneur, s'est révélé, mais il n'empêche que, on va dire presque intrinsèquement, on veut toujours conquérir le territoire, le jardin d'à côté, quoi.
Il y a eu les divisions entre le royaume de Juda et
oui, le royaume d'Israël. Oui, exactement. À partir de Salomon, la division des tribus.
Donc, pour rejoindre la question qui était posée tout à l'heure,
ouais.
Ça va jusqu'où ?
Confrontation à la vie.
La confrontation, c'est la confrontation des tribus, ça va être le fait que les tribus, elles sont régies par des juges. C'est pour ça que vous avez le livre des juges dans l'Ancien Testament. Et à un moment donné, qui disent, avant les rois, c'est les juges.
Oui, c'est ça.
Et puis certains qui sont juges de père en fils. Et puis souvent, ils sont un peu dévoyés. Donc il y en a un qui va dire c'est fini, nous on veut plus de juges puisqu'ils sont tous corrompus. Et comme ils sont dans une terre qui est déjà habitée, organisée avec un roi, les tribus disent nous voulons nous aussi avoir un roi à notre tête. Ils réclament un roi et voilà comment Saul est devenu, ou Saül, Saül, est devenu le premier roi.
Et ça signifie quoi? Ça a une signification très profonde dans l'évolution ou c'est juste une organisation?
Ce que ça signifie, c'est que le Seigneur a toujours répondu aux demandes du peuple.
Parce que le roi, il est loin, c'est ça, il n'y a pas une histoire autour de ça.
Alors après, le roi qui était sur place, c'était des rois païens, c'était pas... Voilà. Akaz...
Enfin, c'était juste pour savoir s'il y avait des étapes symboliques dans la révélation.
Alors, les étapes symboliques, c'est, par exemple, le peuple veut être considéré comme les autres peuples, les autres habitants du pays. Ils ont un roi, eux aussi veulent un roi. Donc, le Seigneur leur donne un roi. Et après, ce sera David et puis toute la lignée des rois.
Puis, l'étape fondatrice aussi, c'est la déportation, quand même.
Oui, bien sûr.
La déportation à Babylone.
La déportation à Babylone, bien sûr. On est en 587.
Là, ça.
Voilà, 587. Nabucodonosor détruit le temple. s'empare des objets sacrés du temple, exile une partie du peuple, pas n'importe quelle partie. Et donc, quand Cyrus arrive à vaincre Nabucodonosor, eh bien, c'est lui qui va restituer les objets du temple, qui va ramener le peuple à Jérusalem et qui va reconstruire le temple. Et donc, Cyrus, il a été vu comme celui que le Seigneur a choisi pour rétablir le peuple sur place.
Il y a aussi un élément qui me semble important dans l'enracinement du Nouveau Testament, c'est l'insistance qui a été mise sur la filiation de Jésus.
Exactement.
Parce qu'on remonte très loin et on remonte bien sûr à une filiation royale.
La filiation divine, elle est importante, elle est fondamentale, parce que dans la relation divine, il faut voir aussi la relation trinitaire. Et ça, c'est quelque chose que l'on découvre dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus demande le baptême à Jean-Baptiste, il ne demande pas le baptême pour lui-même. C'est pour nous qu'il le demande. Parce que le baptême que faisait Jean-Baptiste, c'est un baptême de pardon. Jésus n'a rien à se faire pardonner. Mais que se passe-t-il au moment du baptême, vous souvenez-vous? Une colombe, « Celui-ci est mon fils bien-aimé et l'Esprit descend sur lui. » Ça, c'est pour nous. Ça veut dire que la relation, la filiation divine entre le Père et le Fils est une relation trinitaire par l'Esprit. Et on découvre la relation trinitaire au moment du baptême de Jésus. Ça, c'est fondamental. Ça va?
Pour l'instant.
Vous n'êtes pas trop perdu?
Non.
Vous n'avez pas trop d'informations?
C'est la place de la Bible, apparemment.
Ah oui, c'est, ah, au relais, vous l'avez trouvé? Eh bien, dites-moi, je vais le noter, comme ça, pour tout le monde.
À place de la Bible.
À place de la Bible.
Eh bien, okay.
Alors, vous allez le dicter. Comme ça, je le mets pour tout le monde. Je ne sais pas s'il est encore disponible.
Mais bon. Il est disponible.
Ah, c'est super. Donc, vous faut aller à la procure.
Donc, plein de versions différentes.
Atlas
de la Bible.
De la Bible.
Et relais, c'est R-O-W-L-E-Y, comme vous avez dit.
R-O-W-L-E-Y.
Nous, nous ne voyons pas au tableau.
C'est vrai.
À la lumière.
Vous vous approcherez à la pause à ce moment-là. Ils ne sont pas deux, il n'y a pas relais et piano.
Non, enfin, j'imagine.
D'accord. Et c'est quelle année, il vous le dit?
Ouh, c'est pas récent. Hein.
Ah, c'est pas récent.
Non, c'est pas récent.
Il y a plusieurs. J'ai acheté il y a 30 ans, c'est pas récent.
Non, c'est pas récent. Hein.
C'est pour ça que j'avais peur que
ce soit. Il est surtout à d'occasion. Hein.
À d'occasion, alors, sur France Ministère ou. Ça existe encore, ça, France Ministère. Sur Amazon, mais il ne faut pas acheter sur Amazon. Non,
il y a plein de sites.
Oui.
Vous pouvez nous redire le nom de l'auteur, je vous prie.
Alors, relais R-O-W-L-E-Y.
R-O-W-L-E-Y.
Voilà. Bon, je pensais que j'avais une autre chose, en fait, j'enregistrerai. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis, du coup.
C'est pas grave.
Je garde.
Juste avant les grandes.
Juste avant le grand 2.
C'était où apprendre la force?
Ah oui, c'était ça. Je vous disais qu'on doit donc, après notre intermède, prendre en grande considération l'Ancien Testament. On pourrait dire que Jésus-Christ vient comme déchirer le voile, d'une certaine façon. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si la révélation était encore voilée dans l'Ancien Testament, avec le Christ lui-même, le Verbe fait chair habitant parmi nous, le voile se déchire, ça se dévoile, et on peut même faire le lien avec le voile du temple qui se déchire. Alors, pour essayer de mieux comprendre, il y a la constitution dogmatique Vatican II, Dei Verbum. Tout à l'heure, je vous parlais de processus.
Eh bien, on va voir, parler d'un autre terme, mais qu'on a déjà vu, me semble-t-il, celui d'économie. Voilà ce que nous dit la constitution dogmatique Dei Verbum, au chapitre 4, paragraphe 15. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ sauveur de tous et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Alors vous voyez, il est question de caduc, mais ce n'est pas l'Ancien Testament qui est caduc. Il y a du caduc. Ce n'est pas pareil. Il y a de l'imparfait et du caduc. De l'imparfait parce que l'Ancien Testament a été écrit par des hommes, par des auteurs sacrés. Donc forcément...
Quel est le sens exact pour économie ?
Ah, alors. Alors, mais je veux bien redire, parce que ce n'est pas toujours facile. Quand on parle d'économie de la révélation, par exemple, puisque c'est le cas ici, on va parler d'un principe économique, c'est-à-dire quels sont les moyens que Dieu se donne pour se communiquer. Donc c'est un principe de communication, c'est une économie. Donc il va commencer par parler aux prophètes, il va se manifester pour Moïse dans le buisson ardent, il va sauver le peuple, il va donner les tables de la loi. Ça c'est dans le détail, mais si on regarde l'économie de la révélation uniquement par des grands événements, ça va être la révélation de Dieu par sa parole et son action, l'incarnation du Fils, la mort et la résurrection du Fils. On est dans une économie de révélation. Vous voyez ?
C'est une orchestration, quand même.
On va dire que c'est une mise en œuvre par palier. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Quels sont les moyens? Alors, je ne sais pas quels exemples on pourrait dire. Parce que finalement, tout est économique, hein, d'une certaine façon. On a l'habitude d'utiliser ce terme d'économie en finance. Mais en même temps, c'est...
J'ai entendu une avocate aux informations qui parlait comme ça, qui disait l'économie d'un procès ou l'économie d'une affaire.
Eh bien, c'est toute la mise en œuvre. Voilà. C'est tout le procédé mis en œuvre pour arriver, le système, pour arriver à l'accomplissement
de son projet.
Oui, à l'accomplissement du projet. C'est tout ce qu'il va mettre en œuvre. Et comment il le met en œuvre? C'est cela, en fait. Comment Dieu s'y prend pour se révéler? Quels sont les moyens qu'il va utiliser? C'est ça, l'économie. Tous les moyens qu'il va utiliser... On considère que ça s'appelle un principe économique. Alors on pourrait se dire, aujourd'hui par exemple, quelle est la révélation, elle est close avec le Christ. Et pourtant nous avons l'Écriture et les sacrements et l'Église. Eh bien, pour celui qui ne croit pas ou qui n'a jamais cru et qui ouvre le livre et qui croit ou qui va à l'église, je ne sais pas, lors d'un baptême de famille, d'un membre de la famille et qui est touché par quelque chose, on pourrait dire, la révélation de Dieu, qui est close en Jésus-Christ mort et ressuscité, continue d'être active à travers peut-être la communauté, à travers les sacrements, à travers l'écriture. Ben, là aussi se poursuit hein, quelque chose qui est de l'ordre économique. Oui, dites-moi. On doit faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que ce lien, il est nécessaire, alors on parlait d'identité, mais justement, il est nécessaire pour l'identité chrétienne. Notre identité chrétienne, ce n'est pas que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Pouvoir comprendre la venue de Dieu dans l'Ancien et la venue de Dieu en personne dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que ce qui s'est accompli pour le peuple élu dans l'Ancien Testament, eh bien, se poursuit dans le Nouveau Testament par l'incarnation du Verbe. Cela signifie que l'histoire du salut, elle est une et elle est unique. Il n'y a pas deux histoires du salut. Il y en a une qui a été préparée et annoncée dans l'Ancien Testament et qui s'est accomplie dans le Nouveau. Annoncée et préparée dans l'Ancien Testament et qui s'est accomplie dans le Nouveau. Ça veut dire que cette histoire, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire d'une élection. À chaque fois, on a des hommes choisis parmi le peuple que l'on connaît. Donc l'histoire d'une élection dans l'Ancien Testament et l'histoire d'une identité dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a aussi de l'identité dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'identité de chrétien. Mais l'identité par rapport au Christ, pas par rapport à la terre. C'est ça la différence. C'est pour ça que Jésus peut dire « Je détruirai ce temple et 3 jours après je le reconstruirai » parce qu'il est lui-même le temple. C'est ça la nouveauté. Et la nouveauté, cette nouveauté-là, le peuple juif, ne pouvait pas l'entendre ça quand Jésus a dit ça. Parce que pour eux, c'était le temple, les murs. Et on ne pouvait pas détruire le temple. Donc on ne pouvait pas non plus reconnaître Jésus. On ne pouvait pas reconnaître le Messie en Jésus, puisque cet homme-là disait qu'il voulait détruire le temple. Vous voyez ?
Accéder à cette compréhension.
Voilà, c'est cela. Mais il n'avait pas accédé à cette nouveauté-là. Donc on ne doit pas dissocier, pour en revenir là, on ne doit pas dissocier les livres. Il y a un mouvement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un mouvement d'aller-retour, de l'un vers l'autre et vice-versa. Et on peut même parler de réciprocité. Et donc le Verbe fait chair, l'incarnation du Fils, marque la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, marque la continuité de la révélation. Et on parlait d'unité.
Aussi,
comment ?
S'il vous plaît, est-ce que Dieu n'a pas fini ?
Des fois je crois que je fais pause, puis je fais l'inverse. Bon, c'est pas grave. Donc le Nouveau Testament, notre point 2. Le Nouveau Testament, en son Fils Jésus-Christ, Dieu se révèle. Mais ça, vous l'avez bien compris. Alors, on va lire le texte 6, qui, enfin le texte, c'est un tout petit texte, c'est un verset. Du chapitre 1, Hébreux 1. Alors voilà, après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Vous voyez, ce verset-là fait suite à votre question. Donc, lorsque Jésus parle de Dieu, donc de son Père, il ne parle pas d'un autre Dieu que celui qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Vous voyez ? Et donc voilà la définition, mais le paragraphe de Dei Verbum dont je vous parlais tout à l'heure, quand on parlait des temps opportuns. De la donc, Constitution dogmatique Vatican II, on est au chapitre 5, paragraphe 17. La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance s'y manifeste de façon singulière. Dès que fut venue, en effet, la plénitude des temps, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le Christ a instauré le règne de Dieu sur terre par ses gestes et ses paroles. Il a révélé et son Père et lui-même. Par sa mort et sa résurrection, son ascension glorieuse et par l'envoi de l'Esprit Saint, il a parachevé son œuvre. Élevé de terre, il attire à lui tous les hommes, lui qui seul possède les paroles de la vie éternelle. Mais ce mystère n'a pas été dévoilé aux autres générations, comme il l'a été désormais dans l'Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes, afin qu'ils proclament l'Évangile, qu'ils suscitent la foi en Jésus, Christ et Seigneur, et qu'ils rassemblent son Église. De ces réalités, les écrits du Nouveau Testament présentent un témoignage permanent et divin. Donc vous voyez, la parole de Dieu, nous disent les pères conciliaires, est une force divine pour le salut de tous les croyants. Alors on pourrait dire, ben voilà ce qui change un petit peu, c'est que là on passe dans la dimension, non pas la dimension particulière du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais la dimension universelle, parce que ça concerne tous les croyants. Donc on nous dit la parole de Dieu est première, elle est même une force divine. Donc si elle est une force divine, elle est différente de celle des hommes. La force de la parole de Dieu, eh bien, elle va se manifester singulièrement par l'incarnation du Verbe et donc par une action. Ce qui fait que le Christ... Oui, dites-moi.
Si c'est un message universel, ils auraient dû écrire pour le salut de tout homme et non pas de tout croyant.
Si. Alors.
La première ligne. La parole de Dieu,
oui,
est une force divine pour le salut de tout croyant.
Oui.
Pas pour de tout homme.
Oui, c'est vrai. Après, il faut se remettre au contexte. Parce que là, quand vous dites de tout croyant et pas de tout homme, vous vous dites à ce moment-là, celui qui ne croit pas n'est pas considéré, n'est pas concerné. Par le salut.
Oui, mais on est dans le cadre de Vatican II qui reclasse, qui s'adresse d'abord aux chrétiens.
Oui, mais le Concile Vatican II, il y avait une ouverture œcuménique très forte. Donc de tout croyant, c'est vraiment de tout croyant au niveau œcuménique. Voilà. Mais Je pense que ce serait faire un faux procès aux pères conciliaires d'imaginer qu'en mettant tout croyant, ils excluent, d'abord c'est une citation de Romains 1,16, d'exclure tout homme en fait. Il y a vraiment l'universalité du salut, et au moment de Vatican II, l'universalité du salut n'est pas remise du tout en cause. L'ouverture, c'était vraiment l'ouverture œcuménique de tous les chrétiens. Moi, je le reçois comme ça.
Oui, parce qu'un petit peu plus loin... Hein, dans...
Sur la phrase, effectivement, « élevé de terre », on pense à quoi ? On pense à la croix. Donc, le Christ meurt pour tous les hommes, et il est ressuscité en vue du salut de tous les hommes. Mais on a le droit de pointer des mots qui nous interrogent. Oui, madame, dites-moi.
Saint Paul parlait mieux que ça, je trouve.
je ne sais pas trop, mais vous savez, Dei Verbum, la constitution Dei Verbum, elle a mis 4 ans de 62. C'est le premier texte qui a été soumis à débat et c'est le dernier qui a été voté. Donc
excusez-moi, je disais ça pour plaisanter, mais c'est juste que Saint Paul, il a bien expliqué les choses, ça que je veux dire, lui, il les explique bien.
Ah, mais je trouve que les pères conciliaires les expliquent bien aussi. Hein. C'est un magnifique document théologique, hein, Dei Verbum. Hein.
C'était en quelle année ?
C'était en 65. Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation divine, a été votée en 65.
Et c'est qui a écrit tout ça ?
Eh ben, les pères conciliaires, tous les pères du Concile Vatican II.
Mais qu'est-ce que vous appelez les pères ?
Alors, les pères conciliaires, c'est tous les cardinaux, tous ceux qui ont participé au Concile Vatican II en 62, concile qui a été initié par Jean XXIII, voilà, et donc c'est le premier concile de l'histoire des conciles qui n'a pas été convoqué pour débattre d'une question dogmatique. Il n'y avait pas de question dogmatique, doctrinale. Voilà. Jean XXIII a eu l'intuition dit-il lui-même, hein, dans son discours d'ouverture, qu'il a été inspiré par l'esprit qu'il fallait. Voilà. Il disait, il faut que l'Église ouvre les portes et les fenêtres, s'ouvre au monde. C'était ça son intuition. Et il a eu raison. Ça n'a pas vraiment suffi après, mais il a eu raison de faire ça.
Parce qu'avant, il est trop
étriqué. Avant, il faudrait que je vous fasse une historicité de l'Église et de la théologie. Oui, il y avait... Il y a toujours des réactions de l'Église face à la perdition, face à... Vous savez, quand on veut garder son identité, on a tendance à se refermer sur communautairement. Il fut un temps, jusqu'à Vatican II, où l'Église, elle a été traumatisée par la séparation de l'Église et de l'État, où l'Église s'est un petit peu repliée sur elle-même. Donc, il y avait la question des modernistes, des conservateurs, enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font que l'Église s'est ouverte. Dites-moi.
On discute pour rien.
Ah, d'accord.
Excusez-moi, pardon. C'est pas ça, mais croyant, pas croyant. Le texte de Paul qui a...
Voilà, c'est reparti. Alors, pour reprendre. Dans ce petit texte-là, dans ce paragraphe 17, on voit que le Christ a une mission, c'est celui d'instaurer le règne de Dieu sur terre. Vous pouvez même le souligner si vous avez le texte. Ensuite, il doit révéler son Père et lui-même. Alors pourquoi il lui-même ? Ben parce qu'il est lui-même. Il est lui-même le Fils de Dieu. Il est lui-même Dieu en personne parmi nous, le Verbe fait chair. Donc par ses paroles, ses gestes et son enseignement, et aussi par sa mort et sa résurrection, et l'envoi de l'Esprit, eh bien Jésus va parachever l'œuvre du Père. C'est pour ça que la révélation est accomplie. Il parachève l'œuvre du Père. Et donc, comme cette œuvre, c'est l'œuvre du Père, du Fils, et par la force de l'Esprit, ou dans la force de l'Esprit, on dit que la manifestation est totale, elle est trinitaire. Et que cette manifestation, elle se donne à voir dans l'Église fondée par les apôtres, parce qu'on n'oublie pas, elle est fondée par les apôtres. C'est sur eux que repose la fondation, la proclamation et le témoignage. Donc c'est un témoignage, nous dit Dei Verbum, un témoignage permanent et divin. Donc si on voulait souligner les verbes concernant le Fils, il instaure le règne, il révèle son Père, il envoie l'Esprit, il parachève l'œuvre du salut. Et concernant les apôtres, ben eux aussi ils ont une mission, parce qu'ils sont les relais de la mission reçue du Christ. Les apôtres doivent proclamer l'Évangile, ils doivent susciter la foi en Jésus, rassembler l'Église. Et ensuite, on a les écrits des auteurs sacrés. Les auteurs doivent présenter justement ce témoignage permanent et divin. Et ce témoignage, nous l'avons encore aujourd'hui. Il est permanent et il est vraiment divin. Au titre que ce qu'il y a à l'intérieur de l'évangile, c'est précisément l'événement Jésus-Christ qui est relaté, c'est-à-dire sa venue, sa mort et sa résurrection qui sont relatés. Et que ceux qui ont écrit les évangiles ont été inspirés par l'Esprit. Ils ont écrit avec leur culture, avec ce qu'ils étaient, mais sous l'inspiration de l'Esprit, pas sous la dictée, sous l'inspiration de l'Esprit. Alors, notre point 2.1, une révélation à la personne même de Jésus. Les deux événements que constituent l'incarnation, puis la mort et la résurrection de Jésus, révèlent, donc l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus, révèlent la promesse de salut. C'est pour ça qu'on dit que la révélation est accomplie. Et à ces événements s'ajoutent les enseignements que Jésus a donnés. Parce que ces enseignements sont d'une radicale nouveauté pour son époque. Radicale nouveauté. Et en même temps, j'en ai parlé à ses disciples. Il expliquait les paraboles. D'ailleurs, Marc, chapitre 4, verset 11, il leur disait « À vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. » Voilà, il y a un enseignement particulier. Cet enseignement, il le réserve à ses apôtres. Tout est singulier dans la vie de Jésus. Faut bien avoir ça en tête, quand même. Ce Jésus de Nazareth qui était connu comme étant le fils de Marie et de Joseph le charpentier, il est particulier, il est singulier. D'abord sa manière si particulière dans ses rapports avec les autres hommes de son groupe. Vous savez, quand il appelle Matthieu, quand il appelle les hommes qu'il choisit, il quitte tous, tout, il laisse tout sur place pour le quitter. Fallait-il qu'il soit singulier cet homme Jésus pour que... aux premières paroles, on décide de le suivre. Son enseignement qui est adapté, qui est pédagogique, et puis bien sûr les signes qu'il donne par les miracles. Vous savez, les miracles, c'est pas simplement la guérison des corps et des esprits, c'est la présence du royaume de Dieu sur terre. Ce sont les signes de la présence du royaume de Dieu sur terre. Le salut de tous les hommes, il commence aussi par là. Les miracles, ils disent quelque chose justement de cette économie. Comment Jésus procède-t-il ? Il commence par les sauver, physiquement, mentalement. Et puis Jésus est capable de pitié et de compassion pour les foules. Regardez comment se met en œuvre sa pitié, le résultat de sa compassion pour les foules qui n'ont pas de quoi manger. Eh bien, ça passe par un miracle, la multiplication des pains. C'est vraiment un homme particulier et singulier. Il est lui-même le salut qu'il annonce. Ce qu'il dit se produit. Donc il est lui-même le royaume de Dieu sur terre. Et l'évangile de Jean le dit bien souvent, à plusieurs reprises, il est le chemin vers le Père, celui qui l'a envoyé. Nul ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. Et donc c'est là que je voulais parler des égoïmies. Égoïmies, c'est je suis, en grec.
Alors, égo, émi. Égo, émi en grec.
C'est je suis, c'est que vous devez avoir le texte neuf. Si on sélectionne dans l'évangile de Jean tous ces égo et mi, c'est-à-dire tous les je suis, Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis le maître, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la vraie vigne, je suis la vigne. Si vous avez le texte, vous voyez comment je les ai organisés. Qu'est-ce que nous avons en premier et en dernier? Le pain de vie et la vigne, le pain et le vin. Et qu'est-ce que nous avons au centre? La résurrection et la vie. Et nous avons là, chez Jean, alors je ne pourrais pas vous dire si Jean avait construit, était conscient de ce qu'il avait construit, mais quand j'ai répertorié tout cela et que je l'ai mis, on dit, en chiasme, eh bien on se rend compte qu'au centre, eh bien nous avons la résurrection, nous avons là, on peut une interprétation presque liturgique, sacramentelle, quelque chose.
Oui. J'avais suivi un cours et dont j'avais retenu que dans un texte sémitique, le plus important était au centre.
Oui, oui. Ouais. Et là, dans l'organisation, on a ça. Hein. Je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'il y a bon, la résurrection de la vie. Je suis le bon berger. Et après, on a je suis le maître. Vous voyez, il y a comme un parallèle entre chaque verset. Donc ce qui est important dans tous ces égoïmies, c'est de voir la dimension médiatrice. Jésus est le médiateur du Père. Il dit qui il est, le « je suis » très fortement donne son identité, et en même temps, il dit qu'il est le médiateur du Père, il est la porte, il est le berger, il est le maître. Donc on doit comprendre que la religion, notre religion chrétienne, c'est une religion de médiation. On ne se construit pas son petit Dieu tout seul, mais c'est par le Christ que nous accédons au Père et que nous accédons à Dieu lui-même. D'ailleurs, le texte suivant, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Vous voyez, le dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc Jésus ne dévoile pas seulement les liens intimes et étroits qu'il a avec son Père, il révèle qui il est lui-même dans une manifestation visible. Il est la présence vivante, visible du Père sur terre. Alors, on avait parlé un petit peu des miracles, peut-être qu'on pourrait aborder cela. Je vous ai sûrement dit des choses, mais bon, on va reprendre. Donc c'est le point 2, 3, les miracles comme manifestation et présence du règne de Dieu. Pour les contemporains de Jésus, Dieu, c'est l'auteur de toute transformation. Il est aussi celui qui est l'auteur de tout changement dans la nature. Vous voyez bien, dans le cosmos, tout ce qui se produit dans la nature, tout changement dans la nature et tout changement dans le cosmos, pour les hommes de la génération de Jésus, sont du fait de Dieu. Dans la Bible, par exemple, on peut lire dans Exode 14, 21, ce passage bien connu, « Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent violent d'est, puissant, et il mit la mer à sec. » Donc vous voyez, toutes les manifestations qui se produisent dans la nature sont, y compris pour les hommes du temps de Jésus, des manifestations de Dieu. Ça, c'est acquis. Ça veut dire qu'il y a une cause.
Excusez-moi, je vois bien les manifestations comme la...
Oui.
Mais les manifestations du temps de Jésus, là. Parce que ça ne dure que 3 ans, finalement, on l'avait connu de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme manifestation?
Eh bien, ça va être les miracles.
Ah, c'est les miracles.
Voilà, c'est okay. Ça. Ouais, c'est ça. Ça va être les miracles. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les manifestations de Dieu, c'était des manifestations cosmologiques. Et quand la personne de Jésus, eh bien, les miracles vont être la présence du règne de Dieu sur terre, parce que Jésus va guérir. Alors, on voit bien, parce que souvent on dit, il guérit, puis souvent il dit « va, ta foi t'a guéri ». Mais on voit bien que la force de la foi de celui ou de celle qui va juste toucher le manteau pour être guéri a une force, que la foi a une force réparatrice. Et donc ça, c'est la personne de Jésus lui-même qui est cette force vivante et présente pour ses contemporains. Et que le miracle, c'est à la fois une parole agissante, une parole efficace, et en même temps le signe de cette parole, vous voyez ? Le signe de la présence. Parce que le miracle, si je vous parlais des lois de la révélation de Dieu par des événements cosmologiques, c'est aussi pour vous dire que le miracle n'entre pas dans cette loi-là. Il y a des lois de la nature, il y a des tremblements de terre, des orages. Alors bon, voilà, on peut imaginer que c'est Dieu dans l'orage ou pour le temps, ou du temps d'Abraham, ou voilà. Mais le miracle en lui-même, au temps de Jésus, il n'entre pas dans ces lois de la nature, c'est autre chose.
Il est habité.
Habité comment ?
Par la présence.
Ah ben il n'est pas habité, il est lui-même la présence. Voyez ?
Non mais je veux dire, le miracle, il est là, c'est quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, c'est pas juste un fait, c'est quelque chose qui vit...
Ben c'est un fait qui se produit en raison de la foi du bénéficiaire du miracle, ouais. Et en raison que celui qui guérit est le sauveur. Voilà. Donc il faut juste se dire que les miracles sont des actions qui défient les lois de la nature. Sauf que vous voyez bien, pour les contemporains de Jésus, c'était une violation des lois à ce moment-là. Alors, Henri Bouillard, qui était théologien jésuite à l'Institut catholique de Paris, qui est mort en 81, voilà ce qu'il dit à propos des miracles. Le miracle est au-dessus des lois. Non pas en ce sens qu'il y contredirait ou leur serait entièrement étranger, mais en ce sens qu'ils les utilisent. Le miracle utilise les lois. Mais vous voyez bien, les lois ne permettent pas non plus d'expliquer les miracles. C'est pourquoi les miracles sont toujours attribués à une puissance divine, à quelque chose qui provient du divin. Leur légitimité est toujours une légitimité divine. Et donc la question qui se pose quand Jésus fait un miracle, eh bien d'où provient-il cette puissance? Elle provient du bien ou elle provient du mal? Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des thaumaturges, il y avait des gens qui guérissaient. Et de fait, la question c'est de qui tient-il cette puissance pour guérir, et au nom de qui guérit-il? Ça, c'était la grande question. Donc, quand Jésus faisait un miracle, il n'était pas toujours reçu comme il devait l'être. Et donc, pour les contemporains de Jésus qui n'accueillaient pas Jésus en sa personne, ben, le fait d'un miracle, y compris quand c'était le jour de sabbat, c'était une occasion de rejeter Jésus, de rejeter sa personne. Et de fait, au lieu de voir ce qui a été produit de bon, on ne voyait que ce qui avait contredit la loi. Et c'est pour ça que Bouillard dit « le miracle est au-dessus des lois », non pas en ce sens qu'il y contredirait ou leur serait entièrement étranger, mais en ce sens qu'il les utilise. Ben, en utilisant la loi, Jésus, il utilise une notion de sainteté, de justice de Dieu que les Juifs ne connaissaient pas jusqu'à présent. La miséricorde, voilà, pouvoir pardonner les péchés. Au nom de quoi pardonnes-tu les péchés, dit-il à Jésus? Ben, au nom de l'amour de Dieu, de la miséricorde. Mais ça, voilà, c'était une dimension de la loi qui n'était pas intégré, qui n'était pas connu. La loi avait été mise au-dessus de Dieu.
Moi, c'est le verbe utilisé que je trouve un peu difficile.
Vous pourriez lire les textes. Normalement, vous les avez. Je vous ai sélectionné les passages. Hein, les passages chez Luc, chez Matthieu, chez Marc. Par exemple, chez Matthieu, c'est assez significatif. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez, là, on pourrait se dire, ben, ça nous rappelle la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Il parle et il agit. Jésus enseigne et il guérit. Vous voyez, il n'y a pas que la parole. La parole est toujours associée à une action. Il enseignait en homme qui a autorité. Et voilà ce qu'on lit à la fin de chez Marc, Marc 1, verset 23-27. Vous le relirez en entier, hein, mais voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Tout est radicalement nouveau en Jésus. Chez Luc, or un jour qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Il y a un lien entre son enseignement et l'action salvifique ou salvatrice de Jésus. Vous voyez, il y a une immédiateté efficace. Ce qu'il dit et ce qu'il fait est immédiatement efficace. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de performativité. Et ce que dit Paul Beauchamp, à noter que Jésus n'opère aucun miracle pour se protéger de la mort et que sur le plan de l'agir, il ne fait rien si ce n'est des miracles. Toutefois, les miracles des pains échappent à la série. Une foule en bénéficie qui pourrait donner à Jésus un pouvoir politique. Vous voyez, je terminerai là-dessus. Ce qui effrayait les Romains, c'était le fait que Jésus puisse être suivi par un grand nombre de foules et que lorsque ces foules sont nourries, parce que c'est un miracle cela, par la multiplication des pains par les pains, eh bien, les Romains en voient quelque chose de politique. Vous voyez, il faut bien se dire que toute la vie de Jésus l'a mené à sa mort. Ce qu'il a fait, ce qui a été interprété par les docteurs de la loi, ce qui a été rejeté et ce qui a été interprété par les Romains comme potentiellement une action politique, puisqu'il nourrit les foules et c'est pas à lui de le faire, eh bien, représente Jésus représentant sa parole, en sa personne, un danger, quelqu'un qui est à rejeter ou quelqu'un que l'on doit faire mourir. Donc, la singularité de Jésus, sa personnalité, sa manière de dire les choses, sa manière de parler avec autorité et d'agir avec autorité immédiatement, ne joue pas en sa faveur, voyez. Donc il y a tout un processus qui se met en route, qui se met en œuvre. Bon, je vous laisse. Alors le parallèle qu'on peut faire avec la multiplication des pains, ben, c'est la manne dans le désert, hein, vous lirez. Hein. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je voudrais juste vous dire quoi? Ben, que les miracles sont des signes signifiants, c'est-à-dire ils font ce qu'ils disent, ils sont performatifs. Bon, tout ça, je vous l'ai dit. Alors, peut-être ça. C'est dans la conclusion. Si la révélation a trouvé son achèvement et son accomplissement en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection, elle continue pour nous dans et par l'Église du Christ. Cela implique que la révélation est claire pour nous aujourd'hui, la présence de Dieu avec nous et parmi nous. Cette révélation, nous l'accueillons dans la foi, une foi qui nous précède et en même temps une foi toujours à construire. C'est avec ce que nous sommes, avec notre propre histoire que nous construisons notre foi, à condition qu'elle s'inscrive pleinement dans l'Église du Christ. C'est pourquoi l'expérience que nous faisons aujourd'hui de la révélation est faite de multiples expériences de la présence de Dieu et même parfois du sentiment de son absence. Sans ce dernier sentiment, notre foi ne serait pas une foi responsable, une foi acquise tout entière au Seigneur, c'est-à-dire une foi qui peut, aujourd'hui, se passer de signes. Et c'est bien cela, notre bonheur et notre malheur, c'est que notre foi doit se passer de signes. Nous avons l'Église et les sacrements, et nous avons l'Écriture. Voilà. Bon, je vous laisse méditer sur ces paroles. Merci.